9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, à votre bonne santé à tous, ravi de vous retrouver. Ali Habibi est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ali.
Bonjour Philippe.
Membre fondateur de l'émission AVS, vous êtes PhD en psychoclinique et psychopathologie, thérapeute de couple et de la famille, et vous êtes addictologue, et c'est l'addictologue que j'ai convoqué ce matin, si on vous convoque, Ali. C'est plaisir de vous voir.
Plaisir partagé.
Vous me manquez, Ali, mais bon, vous êtes devenu beaucoup trop cher pour moi. C'est-à-dire que plus vous avez de diplômes, et plus les tarifs augmentent. Donc,
Non, c'est plus il y a de diplômes et moins de temps.
Oui.
C'est pas une question de tarifs.
Non.
Parce qu'on vient par amour.
C'est vrai. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir ce matin. Fodil Bellamri est avec nous, membre de la rédaction de Beurre FM. Bonjour Fodil.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et si je vous ai demandé de venir ce matin, Fodil, c'est parce que nous allons parler des paris sportifs en ligne et que vous êtes plus doué que moi, parce que je ne sais même pas comment ça fonctionne. J'ai l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé qu'avec cette Coupe du Monde de football au Qatar. Est-ce que ça a explosé les paris, Adi ?
Alors ça a explosé depuis quelques années. Ça fait déjà un moment que beaucoup de gens jouent et parient sur des matchs. C'est un phénomène qu'on observe maintenant. Si vous en avez entendu parler un peu plus en ce moment, c'est parce que lors de cette Coupe du Monde et un peu avant, il y a eu une campagne quand même de sensibilisation qui a fait qu'un peu plus de gens s'en rendent compte. Mmh. Mais c'est un phénomène qui est présent depuis quelques années.
Mais est-ce que s'il y a une campagne de sensibilisation, c'est que finalement on a constaté qu'il y avait plus de problèmes qui étaient liés à ces paris en ligne ?
Alors, sincèrement, je pense que beaucoup de gens savaient que ça posait problème dès le début. Mais les problèmes augmentent, les personnes à risque, justement, on les voit de plus en plus en consultation, ce qui fait que ça devient une problématique importante.
Alors, on en parle ce matin, mais bien sûr, on va parler des gens chez qui ça pose un problème, mais peut-être aussi sensibiliser ceux qui jouent sans se soucier de ce qui se passe, de ce qui peut se passer. Hein. Mmh. En quoi ces jeux et ces paris en ligne sont-ils plus addictifs peut-être que les jeux de grattage, par exemple, ou les jeux de la Française des Jeux?
Alors, ils ne sont pas forcément toujours plus addictifs. Ça va dépendre des personnes. L'addiction, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que chacun va avoir un comportement ou une attitude face aux addictions qui va être différente. On n'a pas tous la même vulnérabilité aux addictions. Mais la différence, c'est que les gains peuvent être déjà un peu plus importants, les enjeux sont plus importants, et surtout, il y a quand même une particularité, c'est que les jeux de grattage, les gens savent que c'est du grattage et c'est, entre guillemets, de la chance et du hasard. Alors que les paris en ligne, il y a quand même une illusion qui est assez importante, c'est qu'on fait croire aux gens que plus ils connaissent le sport, plus ils ont de chances de gagner beaucoup de gains, ce qui est totalement faux. Mais donc on va appeler ça l'illusion de l'expertise. Donc on va faire croire aux gens que parce qu'ils sont connaisseurs, parce qu'ils sont experts, parce qu'ils connaissent bien leur sport, alors ils ont beaucoup plus de chances de gagner.
Mais ça reste un jeu de hasard, c'est ça qui...
Bien sûr.
C'est ça qui...
Totalement.
Mais qu'est-ce que ça change par rapport à l'addiction ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le fait que ce ne soit pas une expertise, mais que ce soit lié au hasard, ça change rien.
Alors, en fait, ce qui va changer, c'est que, étant donné que les personnes pensent qu'ils ont plus de chances de gagner par rapport à leurs aptitudes, à leurs connaissances, à leur capacité à comprendre le sport, donc ils vont multiplier les gains. Contrairement au jeu de hasard, où ils vont se dire, je ne contrôle rien. Je n'ai pas de contrôle sur le fait de gagner ou de pas gagner. Je vais tenter ma chance, je gratte. Si je gagne, tant mieux. Si je perds, j'ai pas eu de chance. Alors que dans les paris, l'idée est de faire croire aux gens que s'ils perdent, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de chance. S'ils perdent, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment sachants ou savants du sport, ce qui est aussi un mensonge, parce que même des experts dans ces sports-là peuvent jouer et perdre. Et c'est beaucoup plus contrôlé.
Il y a cette notion de contrôle, c'est-à-dire que si on connaît bien toutes les équipes, tous les joueurs, tous les résultats, on est un expert, donc on contrôle.
Donc on contrôle. Et puis, il y a aussi tout le marketing qui est derrière. C'est-à-dire que le marketing qu'on voit justement derrière les paris sportifs va encourager beaucoup plus de gens, souvent des gens vulnérables ou sensibles justement au fait de jouer et de gagner de l'argent. Ça va justement plus les toucher. Ça va être un marketing qui va être assez agressif. Et on va leur faire croire qu'ils ont beaucoup plus de chances de gagner. Et on va les pousser à jouer, c'est-à-dire en leur offrant des crédits de jeu, en leur donnant de l'argent pour jouer. Donc l'idée du départ, c'est « j'ai rien à perdre, c'est pas mon argent ». Et puis, ils vont gagner de l'argent, donc très rapidement. Donc en gagnant de l'argent très rapidement, ils vont avoir aussi cette illusion de « c'est facile ». Donc je peux reproduire ce que j'ai déjà produit, ce que j'ai déjà vécu, sans prendre beaucoup de risques. Et là, ils vont rentrer progressivement, ou ils peuvent rentrer progressivement dans le cercle de l'addiction. Mais alors, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas addict. Tous les gens qui parient ne sont pas addicts.
C'est ça, évidemment, ce qu'on dit. Mais faut-il vous m'expliquer que finalement, même les sites sont bien faits, hein. Ils vous relancent, c'est ça?
Ils vous relancent, que ce soit à base de notifications que vous recevez. Même si, par exemple, vous ne jouez pas, même si vous n'êtes pas au courant qu'il y a un match de foot le soir, on vous envoie des notifications qui vous encouragent à parier, peu importe la somme. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des sites, par exemple, avant, on pouvait parier uniquement 5 euros. C'est à partir de 5 euros. Et là, maintenant, les sites ont changé leur donne. Maintenant, il faut parier minimum 10 euros. Sur tous les sites de paris en ligne.
Alors, sur les relances, c'est aussi assez vicieux. Parce que, comme l'a dit Faudil, non seulement on vous relance avec des notifications, et quand vous avez joué et que vous arrêtez de jouer, on peut aussi vous lancer au bout de quelques jours un message en vous disant ça fait quelques jours que vous n'avez pas joué, qu'on ne vous a pas vu, vous nous manquez, il faut revenir. Ou alors, on vous donne un montant sur lequel vous pouvez rejouer, mais qui vous a, donc c'est de l'argent virtuel, quoi, c'est de l'argent qui ne vous appartient pas, on vous fait croire qu'on vous donne de l'argent.
C'est de l'argent virtuel.
Exactement. Et l'idée, c'est de redonner envie à la personne de revenir, mais sans la culpabiliser, sans lui, c'est-à-dire le message, je sais pas, ça fait 3 jours, vous n'avez pas joué, c'est bien. Ça fait 3 jours, vous n'avez pas joué, c'est pas normal. Revenez. Et en sachant qu'il y a des matchs tous les 3 jours, en plus, en moyenne.
Exactement. En plus, ce qui est bien, Philippe, c'est que nous avons 10% des jeunes les plus dépensiers ont misé 150 euros ou plus dans les paris sportifs, selon une étude réalisée par Escapade en 2017. Il faut savoir aussi que 4 jeunes de moins de 17 ans sur 10 avaient parié au moins une fois au cours des 12 derniers mois.
C'est ça qui change et peut-être qui interpelle les autorités, c'est que finalement, ça a énormément de succès auprès du jeune public.
Oui.
Est-ce qu'on a une idée de l'âge moyen, faut-il, des gens qui jouent sur ces sites de paris sportifs?
Oui, Philippe, le profil typique d'un parieur, c'est que ce soit 85% d'hommes et 15% de femmes, d'âge de 18 ans jusqu'à 35 ans, et beaucoup plus actifs dans un milieu urbain, selon une étude réalisée par Le Parisien, fans de sport, en particulier de football, de jeux vidéo ou d'automobile, et qui consomment beaucoup plus la musique urbaine, comme par hasard. Et si on regarde bien, plus c'est très important, Philippe, si on regarde bien les pubs de certaines entreprises de paris en ligne, on voit que ces pubs-là sont centrées sur le milieu urbain, où on voit des clichés des quartiers, avec bien sûr des slogans. Mettez par exemple la daronne à l'abri.
Mais la daronne à l'abri grâce à l'argent des paris. Ça rime, en tout cas.
Ça rime.
Quand on a ce genre d'accroche publicitaire, qu'est-ce qu'on dit, Ali Habibi?
On est en train de dire aux gens, déjà on leur parle leur langage, on va utiliser des vocables que ces jeunes utilisent. Vous voyez, par exemple, le mot daronne, tout le monde n'utilise pas ce mot-là, ça va être une catégorie, on va dire, de la population.
Moi, je l'utilise, par exemple, Fatima Zora qui réalise l'émission, je dis c'est la daronne.
D'accord, mais là, vous le dites d'un point de vue un peu plus positif. C'est étonnant que vous utilisez ce mot-là, ça me surprend.
C'est la daronne, la daronne.
Mais donc ils vont utiliser non seulement donc le vocabulaire de donc comme l'a dit Faudil, ils vont cibler ces jeunes qui sont beaucoup plus vulnérables. En général, c'est des gens qui sont aussi en situation financière assez faible. Souvent, ce sont des gens qui sont au chômage. Donc l'idée de gagner beaucoup d'argent rapidement, facilement, sans vraiment faire d'efforts, juste en s'appuyant sur son expertise et avec ce message, par exemple pour cette société de mettre la maman à l'abri, c'est pour valoriser la chose. Vous voyez, parce que on a culpabilisé les jeunes pendant longtemps dans un mode de il faut que vous vous occupiez de vos parents, vous vous occupez plus de vos parents, vous êtes un peu des parasites. Là, l'idée c'est via le jeu, vous ne serez plus un parasite, vous gagnerez des grands gains, des gros gains, et vous allez non seulement vous mettre à l'abri, mais mettre à l'abri votre maman. Et tout le monde est plus ou moins, surtout chez ces jeunes-là, sensible à l'idée de protéger, de préserver sa mère. Donc là, on va toucher quand même une corde sensible chez cette population. Pour les pousser, les inciter à jouer et surtout à ne pas culpabiliser.
Oui, message positif finalement.
Exactement.
Comment est-ce qu'on rentre dans l'addiction? Est-ce qu'il y a un profil de personnes qui peuvent rentrer plus facilement dans l'addiction que quelqu'un d'autre?
Alors vous avez des personnes qui sont plus vulnérables aux addictions que d'autres. C'est pour ça que vous allez avoir chez des parieurs énormément de personnes qui parient qui ne vont pas entrer dans l'addiction. Quand on parle d'addiction, on parle de maladie, on parle de souffrance. Vous voyez, c'est-à-dire que quelqu'un qui joue et qui ne va pas rentrer dans les critères qu'on va nommer pour pouvoir évaluer une personne si elle est addict ou non, et qui ne rentre pas donc dans ces critères-là, n'est pas addict. Il n'a pas forcément un comportement pathologique ou problématique dans ses paris.
Est-ce qu'on sait déjà comment on y rentre en fait? Quel est le mécanisme?
Alors, les vulnérabilités sont. Oui, Faudy.
Non, allez-y.
Il y a des vulnérabilités chez beaucoup de gens, en sachant que quelqu'un qui va être addict au jeu de paris sportifs, c'est pas les jeux des paris sportifs qui l'ont rendu addict. C'est quelqu'un qui peut être addict sur plusieurs comportements ou face à différents produits. On peut être polyaddict. Et c'est-à-dire que ces vulnérabilités de dépendance vont encourager la personne, via différents circuits dans le cerveau, à jouer et à rejouer. Alors, il y a plusieurs circuits qu'on va apercevoir. Dans les jeux de hasard ou les jeux d'argent ou les paris, il y a l'idée du gain d'abord qui va apparaître. Les gens vont gagner un peu d'argent. Ils vont dire, mais cet argent, j'ai pas fait grand chose pour le gagner. Puis il y a la deuxième étape qui va être la perte. Ils vont rejouer, mais ils vont perdre. Et souvent, quand on perd, au bout d'un moment, on se dit, il faut que je me refasse. Troisième étape. Donc, il faut que je récupère l'argent que j'ai perdu. Ça, c'est un phénomène qu'on voit aussi chez les entrepreneurs, pas que chez les personnes qui ont un comportement problématique au pari. Ça peut être quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent dans un restaurant, qui n'a pas fonctionné, et puis, il se dit, là, au lieu de fermer et d'arrêter, de limiter la casse, faut que je continue pour récupérer l'investissement que j'ai mis et qui est perdu. Le problème, c'est que souvent, plus je continue, plus la perte augmente. Donc, première étape, le gain. La deuxième étape, ça va être la perte. La troisième étape, ça va être l'idée de se refaire et de rattraper justement la perte qu'on a vécue. Et puis la quatrième étape, et c'est là où ça commence à devenir problématique, ça va être le désespoir, c'est-à-dire l'idée de je ne peux plus rattraper. Et là, on va s'endetter ou se surendetter et on va cacher le comportement problématique qu'on a face au jeu. On va peut-être faire des délits pour pouvoir avoir de l'argent ou récupérer l'argent qu'on a emprunté. Et malheureusement, le risque chez certains, alors je sais pas, c'est pas chez tout le monde et tant mieux, mais chez certains, ça va être, après ce désespoir, il y a toutes les problématiques et les troubles de l'humeur, la dépression, et ça peut aller jusqu'au suicide pour quelques-uns d'entre eux.
Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de gagner au début pour être addict? Alors, et d'activer ce qu'on appelle le fameux circuit de la récompense?
Oui, alors
pour,
ça...
Pour justement mettre en branle cette addiction.
Alors, l'addiction va souvent être déclenchée par rapport justement à cette récompense. Le fait de cette adrénaline qu'on va avoir quand on va gagner beaucoup d'argent. Donc, ça va provoquer quelque chose. On va être envahi par des stimuli, par des sensations de plaisir. Et ces sensations de plaisir qu'on va recevoir, on va vouloir les revivre, forcément. Donc, ça va être un grand déclencheur. Mais le plaisir, il va se manifester pour les paris dans le fait de gagner beaucoup d'argent. Ou de gagner une somme d'argent qui est supérieure à celle qu'on a investie, mais elle peut se faire sous une forme un peu plus subtile par rapport à la reconnaissance au niveau social, au niveau du groupe avec lequel auquel on appartient. C'est-à-dire que si il y a un engouement dans le groupe dans lequel je suis et que quand je parie, j'appartiens au groupe, ou quand je gagne, je deviens l'expert du groupe et j'ai une reconnaissance de mes pairs ou des personnes qui m'entourent comme étant celui qui connaît le mieux parce que j'ai gagné une somme, c'est très valorisant. Et certains, c'est pas forcément l'argent qu'ils recherchent. C'est cette reconnaissance qu'ils vont rechercher. Ça va être ce statut qu'ils vont avoir. Et ça, on peut le voir aussi dans les réseaux. Quand vous allez voir un peu sur Twitter ou même sur les Discord où il y a différentes personnes qui se connaissent et qui jouent, alors qu'ils peuvent se rencontrer pour d'autres choses, par exemple pour des jeux vidéo, et ils vont faire des paris de temps en temps. Celui qui a parié, qui a gagné, va être extrêmement valorisé dans la communauté dans laquelle il appartient.
Voilà, alors on continue d'en parler ce matin, paris sportif, addiction aux jeux en ligne. Je vous rappelle simplement un numéro d'écoute via une plateforme qui s'appelle Joueur Info Service. C'est une ligne qui est accessible 7 jours sur 7, de 8h à 2h du matin. Vous pouvez les appeler de façon anonyme. Ça s'adresse aux joueurs, mais aussi aux familles. Et vous appelez le 09 74 75 13 13. 09 74 75 13 13.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors c'est vrai qu'en cette période de Coupe du Monde de football, vous êtes nombreux à jouer, à succomber aux paris sportifs en ligne, surtout qu'il y a des équipes qui nous intéressent, Ali, le Maroc, la France. Bien, alors Ali Habibi est avec nous, je rappelle que vous êtes, et on l'a pas dit tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, que vous êtes créateur d'une plateforme qui s'appelle Islam et Psycho. C'est quelque chose de complètement unique en France. Ali, parce que parfois on arrive à opposer l'islam et la psychologie. Vous proposez à des personnes de vous rejoindre. Il y a beaucoup de modules sur votre plateforme.
Oui, il y a beaucoup de modules. Il y a des thérapies digitales, quelques formations sur différentes problématiques que les gens peuvent rencontrer et qui ne peuvent pas forcément consulter de psy, ou qui veulent juste avoir des connaissances et travailler dessus. Donc ça peut être aussi des addictions. Il y a par exemple une thérapie digitale sur les addictions comportementales, où on travaille beaucoup sur l'addiction à la pornographie, mais pas que, c'est aussi les jeux d'argent et les jeux de grattage. Et puis d'autres modules sur la gestion des conflits, la gestion des émotions, comment mieux communiquer, etc.
Islam et Psycho. Fodil Belhamri de la rédaction de Beurre FM est avec nous et nous parlons aujourd'hui des paris sportifs et notamment de l'addiction aux jeux en ligne. Alors, on a des chiffres à peu près sur 100 joueurs. Quels sont les risques de basculer dans une pratique problématique, Ali ?
Environ 15%. Donc à peu près 15 joueurs sur 100 sont des joueurs à risque qui peuvent tomber dans un usage problématique et tomber donc dans une addiction.
Mmh. Alors on peut se croire à l'abri de l'addiction et dire moi de toute façon les jeux j'arrête quand je veux. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un, Ali, qui vous dit moi j'arrête quand je veux?
Si seulement c'était vrai. Si seulement c'était vrai, c'est-à-dire que il y a une double fausse croyance entre ceux qui pensent qu'ils peuvent arrêter quand ils veulent. Et ceux qui, même quand ils ont été addicts et qu'ils en sont sortis, disent j'ai arrêté juste grâce à ma volonté et à la motivation. Ces deux croyances sont fausses. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas forcément quand on veut, en tout cas c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des personnes qui encore une fois n'ont pas un usage problématique, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer de manière occasionnelle, ce qui peut déjà être problématique pour certains selon leur éthique, leur morale ou leur situation familiale. Mais ils ne vont pas forcément entrer d'un point de vue médical dans une addiction. Mais beaucoup d'autres, donc déjà 15% c'est déjà pas mal, peuvent rentrer dans cette addiction et là c'est pas quand ils veulent, c'est pas leur volonté. Ils peuvent avoir envie de...
Pourquoi ça n'a rien à voir avec la volonté?
Parce que là c'est plus eux qui contrôlent, justement la première condition. Alors il y a plusieurs conditions pour rentrer, pour évaluer une addiction. Et ça, ce que je vais vous dire, de manière très synthétique, c'est vrai pour toutes les addictions. La première chose, c'est de repérer qu'il y a une perte de contrôle. On ne contrôle plus. Puis la deuxième chose, ça va être le fait d'avoir une utilisation... un usage assez compulsif de la chose. C'est d'un coup, je vais le faire. Puis il va avoir ce qu'on appelle le craving en anglais, c'est une envie irrépressible de consommer ou d'avoir tel comportement. Donc vous voyez que dans les trois cas, déjà, il n'y a plus de contrôle du tout. La quatrième étape, ça va être le fait que ça soit chronique, donc sur une longue durée. Et donc nous, on va s'arrêter sur minimum 12 mois. C'est-à-dire que si sur 12 mois, on va repérer ces différents comportements, puis le dernier qui va être le fait de continuer à avoir le comportement malgré les conséquences, que ce soit des conséquences psychologiques, que ce soit des conséquences sociales, que ce soit des conséquences physiques, malgré les conséquences, les gens vont continuer à consommer. Et on peut ajouter d'autres critères, comme le fait d'avoir essayé d'arrêter, de ne pas avoir réussi, le fait de cacher...
D'avoir réussi un temps et d'avoir rechuté, d'avoir recraqué,
d'avoir l'impression justement que c'est plus fort que nous, que quand l'envie survient, on n'arrive pas justement à gérer ça. Le fait de cacher la chose, vous voyez, de ne pas en parler, de mentir, tout ça, ça va être des critères, surtout sur la période de 12 mois. Quand c'est établi sur 12 mois, ça va être des critères qui vont nous permettre de nous dire que telle personne est addict et la volonté là ne va pas suffire.
Alors, Fodil, il y a des tests en ligne pour évaluer si on est addict ou pas?
Non, jusqu'à ma connaissance, non. Sauf qu'il y a des associations qui aident, il y a des numéros de téléphone comme celui que vous avez donné tout à l'heure, Philippe. Mais en revanche, je voulais juste rebondir sur un truc que monsieur a dit, un truc très important, c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline que procurent ces paris en ligne, puisque d'après une recherche que j'ai sous les yeux, c'est une étude faite sur des jeunes de 15 à 17 ans qui disent que 29,8% disent avoir besoin de miser de plus en plus d'argent pour avoir la même excitation. Et en plus, nous avons aussi 23,7% des jeunes qui affirment avoir vendu quelque chose ou emprunté de l'argent pour avoir de l'argent pour parier.
Donc vous voyez que là, sur ce que vous venez de citer, on voit déjà qu'il y a, c'est une attitude problématique. C'est-à-dire que quelqu'un qui en arrive à vendre des objets ou même à voler des objets ou à commettre des délits ou à les emprunter ou se surendetter pour pouvoir juste jouer, c'est quelque chose qui va le dépasser, qui va prendre le dessus. Et quant la première chose que vous avez citée sur le fait de rechercher la même sensation, ça c'est un phénomène qu'on voit dans toutes les addictions, que ce soit des addictions comportementales. Alors globalement, il y a on peut diviser les addictions en deux parties, que ce soit les addictions aux produits, alcool, drogue, etc. Ou des addictions comportementales comme les jeux d'argent, jeux de hasard, les addictions à la sexualité ou tout les sex addicts ou à la pornographie. On peut diviser donc ces addictions en deux, mais dans les deux catégories, on retrouve justement le fait de rechercher la sensation qu'on a eue. Le problème qui se pose, c'est que dans le cerveau, la sensation que vous avez eue, au bout d'un moment, vous allez la réavoir en faisant la même chose ou en ayant la même chose. Mais au bout d'un moment, ça ne va plus suffire. Vous prenez l'exemple, c'est beaucoup plus parlant pour les gens quand on parle de produits que quand on parle de comportement, mais c'est exactement la même chose. Vous prenez une personne qui prend un verre d'alcool.
On a du mal à comprendre que ce soit la même chose puisqu'il n'y a pas d'absorption de produits, c'est ça.
Mais c'est la même chose parce que c'est le même phénomène qui se produit dans le cerveau, en fait. C'est juste pour ça. C'est-à-dire que ce que provoque le produit, que ce soit l'alcool ou la drogue, au niveau du cerveau, ben c'est aussi ce que provoque le comportement au niveau du cerveau quand il s'agit de jeu et de gain. Donc s'il y a eu un plaisir, que les circuits de récompense s'est activé et que ça va justement donner cette adrénaline et donc tout ce plaisir que la personne va ressentir, on va vouloir le revivre, ce moment. On va vouloir ressentir ce même plaisir. Alors pendant une période, on va l'avoir avec le même comportement et le même résultat. Mais au bout d'un moment, le cerveau se sature. Et donc, si je reprends l'exemple de l'alcool, une personne qui boit 2 verres d'alcool et qu'au bout de 2 verres d'alcool, il a son plaisir, il a son kiff et que ça lui va. Pendant un moment, ça va être 2 verres d'alcool qui vont être justement la quantité nécessaire pour qu'il ressente ce qu'il recherche. Arrivé à un moment, cette étape va basculer où 2 verres d'alcool ne vont plus produire ce qu'il produisait. Et il faudra un 3e verre pour avoir le même résultat, donc la même quantité de plaisir que précédemment avec 2 verres d'alcool. Et puis, ça monte. Ça peut monter. Et
c'est pareil pour les paris. C'est pour ça qu'on va être amené à parier de plus en plus.
C'est pour ça que quelqu'un qui a une consommation problématique à un produit, s'il analyse un peu la quantité de consommation, quel que soit le produit, le comportement de sa vie, dans sa vie, il va se rendre compte qu'il consomme plus dans le temps qu'au début. Pour le même plaisir.
Résultat. Dans les addictions comportementales, Ali, il n'y a pas de modification du comportement.
Si. Modification du comportement.
Quand je dis modification du comportement, les gens ne sont pas sous, ne sont pas raides, ne sont pas stone, ne sont pas.
Alors,
vous voyez ce que je veux dire?
Mais il y a quand même une modification.
C'est-à-dire qu'on les remarque moins. Alors, parce que la personne,
moins.
Voilà.
Oui, on
n'est pas
moins.
Dans un état de conscience modifié.
L'effet voyez. Est moins violent. C'est-à-dire que quelqu'un qui va consommer une drogue ou qui va consommer de l'alcool, l'effet va être immédiat presque. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain seuil, la personne va soit halluciner, soit avoir un comportement problématique visible et que tout le monde va s'en rendre compte. Quelqu'un qui va avoir une addiction comportementale, comment ça va se manifester? Ça va être plus subtil, ça va être moins visible, mais ça sera quand même présent. Vous prenez quelqu'un, par exemple, qui est addict au pari sportif. Vraiment quelqu'un qui a un comportement problématique au pari sportif. Quand il ne peut pas parier, pour X ou Y raison, son comportement va être modifié. Il sera irrité, il sera agacé, il sera peut-être agressif. Vous voyez, donc dans le comportement, il y aura quelque chose qui va changer. De la même manière que quand vous privez à un enfant quelque chose qu'il veut absolument, son comportement n'est pas le même en temps normal ou quand tout va bien. Le comportement va être modifié à ce moment-là. Il va avoir une attitude qui va changer. Par le manque, par la frustration de ne pas pouvoir jouer. Et quand vous lui dites, mais là tu te rends compte que ton comportement est différent, il ne va pas s'en rendre compte. Il lui faudra beaucoup de recul. Il faudra peut-être même le filmer, lui montrer. Vous avez des gens, par exemple, quand vous leur expliquez quel comportement ils ont eu, ils sont dans le déni et ils ne se rendent pas réellement compte de comment ils étaient. Mais quand ils commencent à s'en rendre compte ou quand ils l'observent, donc un exemple, si vous réussissez à filmer une attitude et que vous la montrez à personne, vous allez dire ça, c'était moi. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais agi comme ça.
Alors, Fadil, vous m'avez posé la question tout à l'heure de savoir si on pouvait se rendre compte soi-même qu'on était addict.
Oui, parce qu'il y a 2 sortes de parieurs. En France, nous avons un parieur qui commence à parier par 1 euro, de 1 euro jusqu'à 5 euros. C'est des paris quotidiens d'une semaine. En revanche, nous avons aussi une sorte d'autres parieurs qui parient tout le temps avec des sommes colossaux. C'est-à-dire, nous avons ce qu'on appelle les influenceurs sur YouTube qui persuadent des gens à parier parce que eux, ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ont des partenariats avec ces entreprises-là. Nous avons beaucoup de youtubeurs en France qui ont des partenariats avec de Winamax, par exemple, avec certains youtubeurs, et c'est ce qui pousse les gens à parier. Mais en revanche,
c'est-à-dire que Winamax va avoir des youtubeurs influents.
Voilà.
Et quoi, il fait du placement produit? Qu'est-ce qu'il fait?
Il fait des placements produits. Ensuite, vous avez des youtubeurs qui montrent sur YouTube ou sur Snapchat ou sur d'autres réseaux sociaux comme quoi ils ont parié des sommes colossaux. Automatiquement, ça inspire, ça motive les autres parieurs et ça les pousse à parier aussi, même s'ils n'ont pas ces sommes-là, mais ils peuvent parier ce qu'ils ont dans la poche. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent en surendettement.
Et ce qui est très pernicieux, c'est que c'est les influenceurs, quand ils vont être dans cette attitude-là, ils ne vont montrer souvent que quand ils gagnent. Ils ne montrent pas toute la somme qu'ils ont perdue. Ils ne montrent pas les échecs, ils ne montrent pas leur état de détresse quand ils ont perdu ou leur colère, etc. Ça ne va pas être visionné ou visible.
Mais la question qui se pose, est-ce qu'ils ont réellement perdu? Parce que sachant
plus,
qu'ils ont des partenariats avec ces entreprises,
ils sont financés,
pour l'instant, on ne sait pas.
Mais ça c'est un phénomène qu'on voit dans J'en avais parlé via une publication il y a quelques mois sur quand le jeu FIFA est sorti. Vous voyez, le jeu FIFA, le jeu de foot, de simulation de foot sur console, quand il est sorti, alors il sort chaque année, mais il y a un mode de jeu dans FIFA qui s'appelle FUT, où les gens achètent des cartes sous forme de loterie. C'est-à-dire qu'ils vont acheter avec du vrai argent des crédits virtuels, ils vont faire une loterie pour tenter d'avoir la carte du meilleur joueur qu'ils souhaitent. Le problème qui se passe, c'est que avant que le jeu sorte, vous avez aussi ces influenceurs qui sont souvent financés par le jeu pour ou sinon ils le font eux-mêmes pour la notoriété ou pour des vues, etc. Ils vont dépenser énormément d'argent pour faire énormément de loteries. Au bout d'un moment, ils vont avoir ces stars. Mais vous, quand vous regardez la vidéo, vous dites « Ah, ben il a eu tel joueur, moi aussi je le veux. » Et donc vous allez jouer. Sauf qu'il ne vous a pas dit qu'il a dépensé 1000, 2000, 5000 euros pour avoir ce joueur-là. Mais vous qui êtes au chômage, qui n'avez pas cette somme-là, et qui allez peut-être mettre 10 euros ou 20 euros au début, et vous n'allez certainement pas avoir ce joueur-là, vous allez rentrer dans cet engrenage où vous allez vouloir jouer un peu plus. Et c'est le même phénomène qui se passe avec les paris et ces influenceurs.
Il faut quand même dire que dans leur politique de communication, ces sites de paris en ligne ciblent les personnes vulnérables.
Oui. Bien sûr,
parce que communication, c'est quand même
parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Les personnes vulnérables sont par définition vulnérables et donc plus enclins à jouer.
Âgés de 18 à 35 ans et qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, d'où on voit beaucoup de publicités maintenant de ces entreprises de paris en ligne sur les réseaux sociaux. Et moins sur à la télévision.
Mais c'est jeune, hein. Si la majorité des gens qui parient ont entre 18 et 35 ans, c'est vraiment un public très jeune qui joue.
Oui. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui est surprenant. Quand ce phénomène avait commencé il y a quelques années, il y avait quelque chose moi qui m'avait un peu fait tilter. J'étais en contact avec des jeunes qui jouaient et ils pariaient sur des sports dont ils ne connaissaient même pas les règles.
On avait parlé tout à l'heure, il
pariait sur des matchs de baseball, des matchs de sports qu'on n'a pas en France ou qu'on a rarement en France, ou même de football américain. Ils connaissent pas les règles, mais ils vont quand même faire des paris.
Donc ils pariaient pour parier.
Pourquoi? Parce que justement les sociétés de paris leur proposaient d'énormes gains en prenant ce risque.
Exactement. En plus, je vais juste complémenter votre idée. Et tout à l'heure, on avait parlé, moi et Philippe, quand il n'y a pas un match de football, par exemple, et que moi, je suis un addict des paris uniquement des équipes de football, bah, automatiquement, comme j'ai une envie de parier, bah, je parie sur d'autres sports, sur le tennis, sur le rugby, sur le baseball, et qu'on sort. Et même si je ne m'y connais pas, mais il y a toujours cette envie et cette addiction de parier.
Exactement.
Je rappelle le numéro de la plateforme Joueur Info Service, c'est le 09 74 75 13 13 09 74 75 13 13. On verra tout à l'heure avec Elia Bigby justement, et il y a beaucoup de familles qui nous écoutent, mais comment aider quelqu'un qui est victime de ces addictions.
AVS revient dans un instant. 9h-10h AVS avec Philippe Robichon.
Alors on parle de l'addiction aux jeux en ligne aujourd'hui avec Elia Bigby qui est avec nous et Fodil Benhamri de la rédaction de Beur FM, hein, et on le disait tout à l'heure, donc c'est une addiction qui touche quand même massivement les jeunes et qui est inquiétante et qui commence à interpeller et à intéresser les autorités de santé. Quel est le rôle des familles quand elles repèrent que finalement quelqu'un de leur entourage est victime à lit d'une addiction?
Alors il y a plusieurs choses qui peuvent être faites ou ne pas faire, ou des choses à pas faire. Ce qu'il faut éviter d'abord, c'est d'être dans la sanction, dans le jugement, dans le fait de condamner et de punir la personne. Alors, on peut condamner le comportement, mais il faut absolument éviter d'être dans le jugement ou dans la punition ou dans le rejet de la personne. Pourquoi ? Parce que la personne, elle va souvent être dans le déni déjà de la problématique. Pour la plupart des gens qui ont un comportement problématique, ils vont vous dire « mais moi, tout va bien, je gère, j'ai pas de problème ». Et donc, si vous commencez à être un peu trop excluant, ils vont soit se braquer, soit fuir l'échange, et ils ne vont pas vous voir comme des gens qui veulent les aider, mais plus comme des gens qui veulent être toxiques pour eux. Donc, évitez les jugements et évitez les condamnations de rejet. Après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de discuter et d'aider la personne à prendre conscience qu'elle a peut-être, ou potentiellement, surtout quand c'est le cas, un problème avec les paris ou avec tel ou tel comportement. Et c'est juste en lui posant la question, déjà, est-ce que tu te caches? Est-ce que il t'arrive de mentir? Est-ce que tu sens justement que c'est plus fort que toi? Est-ce que, vous voyez, de revenir un peu sur les différents critères qu'on a cités pour voir si la personne, elle arrive un peu à se rendre compte qu'elle rentre dans plusieurs catégories. Et si c'est le cas, déjà, ça peut peut-être aider la personne à prendre conscience qu'elle a éventuellement une problématique. Après, c'est d'inviter les gens ou de les accompagner à se faire aider. Alors, c'est pas facile, c'est pas toujours évident, mais de se faire aider. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Quelqu'un qui se rend totalement compte qu'il a un problème avec l'addiction, avec les paris, et qui veut vraiment, vraiment faire quelque chose pour y remédier, il peut déjà s'auto-exclure de tous ces sites autorisés. Et de manière à ce qu'ils ne puissent plus y accéder, ne puissent plus jouer. Alors, il y a toujours des
failles. C'est comme l'interdiction au casino.
Voilà, exactement. Il y a toujours peut-être moyen de, mais c'est compliqué. C'est très compliqué quand vous faites les démarches et que vous faites les choses jusqu'au bout. Ça peut quand même être très aidant. Et puis, de se faire aider par des professionnels. Ça peut être de voir un addictologue, de voir éventuellement des psychologues. Il y a des centres dédiés pour justement les différents types d'addictions. Vous avez aussi des, et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, je trouve, des anciens addicts, des anciennes personnes qui avaient des comportements problématiques, qui vont beaucoup mieux et qui aident ceux qui sont dans ce cas de figure, qui les aident justement à aller mieux, à déjà prendre conscience. Et parce que quand vous avez quelqu'un qui vous parle, qui a vraiment vécu ce que vous vivez, c'est déjà beaucoup plus parlant que quand c'est quelqu'un qui n'a pas eu cette problématique.
Il sait ce que vous traversez.
Exactement, il sait, il a les mots. Donc vous avez des groupes de parole, vous avez différentes associations qui sont un peu disponibles un peu partout. Vous avez le numéro que vous avez cité tout à l'heure qui il faut pas hésiter à appeler ce numéro-là quand vous avez
ne serait-ce un numéro et un site. Hein.
Voilà, faut pas hésiter à contacter par exemple ce numéro quand vous avez des questions, des doutes, même si vous n'êtes pas sûr, juste de les contacter, de les appeler pour les interroger si dans votre attitude à vous, qu'est-ce qu'ils en pensent et voir quelles sont les solutions qui pourront les aider. Et parce que je sais que dans le public, il y a aussi des personnes religieuses, les personnes qui ont justement, qui sont religieuses ou la religion peut agir. Moi, je pense que c'est un formidable moyen justement d'aider les gens à prendre conscience et à s'en sortir. Ça peut être le fait de faire intervenir des personnalités religieuses, alors dans l'idéal, qui sont quand même sensibles à la problématique et qui savent un peu s'y prendre. Parce que énormément de jeunes croyants qui ont une problématique, qui ont un comportement problématique, par exemple avec les paris sportifs, beaucoup d'entre eux ne savent pas, par exemple, que c'est quelque chose qui est interdit religieusement. Et donc, ils ne sont pas dans une forme de, c'est religieusement, il n'y a rien qui me l'interdit, donc disons, je dois le faire.
Disons que si c'est pas un jeu de hasard, et que derrière, on se dit, finalement, c'est un jeu qui est basé sur mon expertise.
Sur mon expertise, donc c'est quelque chose qui doit être sûrement légitime et permis. En plus de ça, je fais de mal à personne. Je nuis pas aux autres, donc ils sont dans cette idée que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Alors que quelqu'un qui a cette sensibilité religieuse, et quand vous lui dites que religieusement c'est pas permis, parfois pour certains ça peut être aidant pour se rendre compte et essayer de faire les efforts nécessaires.
Il le découvre.
Et de faire les efforts nécessaires pour se faire aider et s'en sortir.
Faut-il, on a une idée de la mise moyenne?
De la mise moyenne, c'est 238,75 € en France. Il faut savoir aussi.
Mais par quoi?
De mise moyenne.
Par an, par
mensuel.
Mensuel. Oui, c'est pas mal.
Ce qui est beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas de revenus. Parce que quelqu'un qui gagne 3 000 € et qui dit, ouais, mais 200 €, c'est pas tant que ça. Déjà, c'est beaucoup, même quand vous gagnez 3 000 €. Mais quelqu'un qui touche le SMIC ou qui touche un RSA ou qui n'a pas du tout de revenus parce que il est pas en âge d'en avoir, c'est une somme assez importante. Surtout quand c'est mensuel.
Est-ce qu'il y a une addiction spécifique au fait que ce soit une forme de pari en ligne? Ou pas du tout.
Alors, ça rentre dans les addictions comportementales, tout simplement.
Il y a pas une forme spécifique. C'est pas une addiction spécifique.
Non. Les addictions se ressemblent beaucoup. Si vous voulez, vous avez alors c'est un de mes anciens enseignants d'ailleurs qui avait donné cette image, Laurent Carilla, qui est très visible d'ailleurs sur la prévention des
d'ailleurs
des
addictions. Il fait partie de la publicité.
Il avait accepté d'intervenir, ce qui est très bien parce que c'est un expert dans le domaine. Il avait pour donner l'image et pour que les gens comprennent, il avait donné l'image d'un arbre avec des racines et des branches. Et si vous voulez, les branches représentent les différents types d'addictions. Donc on peut avoir plusieurs branches, on peut être addict à plusieurs choses. Mais la problématique, c'est pas l'addiction forcément qu'on a. C'est qu'est-ce qui fait que justement on soit attiré ou qu'on est tenté ou qu'on ait ses vulnérabilités. Et là, on va chercher dans les racines. Et là, ça peut être multifactoriel. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. L'environnement est un facteur majeur. Là où on vit, là où on est, les gens avec qui on traîne, avec qui on est au quotidien, va énormément influencer aussi notre psyché, notre développement et notre manière de nous comporter. Et puis, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte, les relations familiales, les problématiques, éventuellement certains troubles psychologiques. On voit des corrélations justement entre des personnes qui ont des troubles de l'humeur, des troubles dépressifs, etc. et qui vont être plus enclins peut-être à être addicts que d'autres.
Je vous ai entendu parler de fléau carrément, Ali, concernant les...
Oui, c'est un fléau parce que quand vous connaissez les quartiers défavorisés, les quartiers sensibles, et que vous voyez l'ampleur que ça prend chez ces jeunes, que ça soit les paris sportifs, mais c'est pas le seul fléau qu'on voit dans ces quartiers, la drogue est un autre fléau. La consommation de gaz hilarant, la consommation de cannabis, la consommation justement de différentes drogues et sont aussi des fléaux. Mais quand vous voyez qu'autant de jeunes vont aussi facilement avoir accès à ce genre de comportement et vont être tentés de le faire, on peut parler d'un fléau. Pourquoi ? Parce que ça va toucher énormément de personnes, et souvent des personnes vulnérables, démunies, qui ne sont pas conscients justement forcément des dangers, et pour qui ça va être compliqué d'en sortir quand ils sont dedans.
Et à noter que l'addiction est plus facile chez les jeunes.
Alors, elle n'est pas forcément plus facile chez les jeunes. Chez les jeunes, il y a déjà des attitudes où on va être tenté de faire des choses qui sont interdites, des choses auxquelles on n'a pas accès, des choses qui ne sont pas forcément super bonnes pour nous, des choses qui mettent un peu en colère les parents ou toute figure d'autorité. Donc, il y a cette attitude qu'on va avoir chez les jeunes. Mais il ne faut pas oublier que certaines addictions comportementales peuvent avoir le même effet que certaines drogues. Et les drogues vont avoir un effet chimique. Et les deux, dans les deux cas, il va y avoir une influence et un impact sur le cerveau. Et étant donné que le cerveau n'est pas totalement développé jusqu'à un certain âge, jusqu'à 25 ans pour certains, donc entre 20 et 25 ans que le cerveau termine son développement, vous vous rendez compte que quand on est jeune et qu'on a des comportements qui vont venir modifier le cerveau, les conséquences peuvent être beaucoup plus majeures et tragiques que pour des adultes. Ça n'a pas le même impact. C'est ça qui va plus nous inquiéter. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple, alors ça ne veut pas dire que c'est bien, mais quelqu'un qui a 30 ans, qui fume du cannabis, qui commence à fumer du cannabis, ça n'aura pas le même impact sur lui et sur son cerveau que quelqu'un qui en a 15. Où son cerveau est en plein développement et il peut y avoir des conséquences assez, assez tragiques.
Concernant ces paris en ligne, les femmes ont des comportements différents que les hommes, faut-il ?
Il faut savoir que nous avons 15% de femmes en France et aussi nous avons 1,4 million de parieurs en ligne. Les femmes n'ont pas vraiment un impact énorme. En revanche, entre les 1,4 million de parieurs en ligne, de tout type de paris, on a de moins en moins de problèmes. C'est-à-dire les femmes ont de moins en moins de problèmes que les hommes. En 2021, les paris sportifs représentent 82% des comptes des joueurs actifs du secteur des jeux en ligne. Le nombre de paris sportifs a augmenté de 16% en 2021, ce qui rapporte 4,5 millions à ces entreprises.
Les femmes auraient des comportements différents peut-être sur les façons de jouer que les hommes, parce que là oui, alors peut-être que ça va augmenter, avec la Coupe du Monde, hein, parce qu'on le voit aujourd'hui, les femmes suivent beaucoup la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y aurait une différence de comportement?
Alors il y a une différence de comportement à cause de plusieurs facteurs, c'est-à-dire que le premier facteur, c'est l'intérêt. Même s'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au foot, il y a beaucoup plus d'hommes qui s'intéressent au foot que de femmes. Puis face à, on parlait tout à l'heure de l'illusion de l'expertise, cette illusion de faire croire quoi, faire croire aux gens que c'est parce qu'ils connaissent le sport qu'ils vont justement maîtriser le pari,
donc ils vont contrôler
et gagner. Ils vont pas jouer dans le même état d'esprit aussi. Certains vont jouer juste parce que ça les amuse et pour rigoler, et s'ils perdent c'est pas grave, ils le prennent bien. D'autres non, ils vont jouer pour gagner et ils doivent gagner. Vous voyez, et donc ce truc de je dois et je peux et j'ai la capacité, on va le retrouver un peu plus chez les hommes que chez les femmes. Mais je pense là pour le moment, en ce qui concerne les paris, c'est que ça touche beaucoup plus les hommes que les femmes, parce que les hommes s'intéressent beaucoup plus aux objets liés aux paris que les femmes.
Alors le meilleur moyen de ne pas être, de pas rentrer dans la dépendance, hein, et dans la problématique justement des joueurs, c'est de ne pas commencer. Quels sont les messages de prévention qui fonctionnent, Ali?
Alors ça va dépendre de qui fait le message, mais je sais que certains de mes collègues vont plus être très modérés en disant consommez de manière modérée et prenez juste le temps de vous amuser et faites attention. Moi je serais un peu plus virulent sur ma position en disant il faut absolument éviter d'y jouer, ne serait-ce que de tester, parce que c'est une fausse bonne idée, parce que de dire je peux tester,
c'est quelque chose comme un garde-fou, voyez, Ali, qui empêcherait de basculer.
Mais personne ne connaît sa vulnérabilité. Donc même par exemple, si on prend le pourcentage dont on a parlé tout à l'heure de 15%, donc de 15 qui serait sur 100 personnes qui seraient plus susceptibles de tomber dans une attitude problématique, qui vous dit que vous êtes dans les 15 ou que vous êtes dans les 85, vous voyez ?
Il n'y a pas un moyen, il y a pas un petit test qui permet de voir.
On peut pas vraiment savoir. Personne.
Test de sensibilité, vous voyez ?
Non, on peut pas vraiment. Alors, on peut voir un peu nos attitudes face à d'autres comportements ou à d'autres dépendances. Mais vous voyez, par exemple, le smartphone. Aujourd'hui, on est tous dépendants au smartphone. Ça ne veut pas dire qu'on est tous malades ou qu'on est tous addicts. Mais on n'a pas tous le même comportement face à comment on utilise le smartphone. Et on n'a pas tous les mêmes addictions dans le smartphone. Certains sont addicts au réseau, d'autres aux sites pornographiques, d'autres à d'autres choses, etc. Donc le vrai message, c'est vraiment de prendre conscience des risques, de prendre conscience des conséquences et de se dire, ça ne vaut pas la peine. ça vaut pas la peine de il y a plein d'autres moyens de s'amuser tout en se préservant et en évitant des risques majeurs, et c'est pas forcément nécessaire. Si vous aimez un sport et que vous aimez une équipe et que vous avez envie qu'elle gagne, c'est une chose, mais prendre ces risques là et prendre le risque justement de tomber dans une addiction est beaucoup trop important et beaucoup trop difficile à gérer par la suite pour pouvoir le prendre. Donc c'est pas si amusant que ça.
En tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit ça ne vaut pas la peine, parce que récemment, j'étais sur Internet, je regardais les réseaux sociaux et tout, et je suis tombé sur une annonce, sur une publication d'un parieur qui a parié 1000 euros lors du match Belgique-Maroc à la mi-temps. Et vous imaginez, Philippe, il a perdu 1000 euros en espace de 45 minutes. Mmh. Alors qu'il a perdu la moitié, 90% d'un SMIC.
Juste pour finir, il faut savoir une chose, c'est que les joueurs ne sont jamais gagnants. Les seuls gagnants, ce sont les entreprises qui vous permettent
ça,
de jouer.
Il faut le comprendre.
Les joueurs ne gagnent jamais. Les joueurs sont toujours perdants.
Et quand le système gagne
beaucoup d'argent, et il est fait pour gagner d'argent. Et si certains exceptionnellement gagnent quelques grosses sommes, ça reste exceptionnel. Mais les sociétés qui mettent ça en place sont toujours les grandes gagnantes de l'affaire. Et les vrais perdants, ce sont la grande majorité de joueurs.
Bon, je vous rappelle le numéro de téléphone du centre d'écoute via la plateforme Joueur Info Service, c'est le 09 74 75 13 13, ligne accessible 7 jours sur 7 de 8h à 2h du matin de façon anonyme. Ali Habibi, je rappelle, Islam et Psycho, c'est votre plateforme. Comment on s'inscrit ?
En allant sur le site habibi.fr.
Alors habibi.fr,
H-A-B-I-2-B-I. Il y a deux B au deuxième B, effectivement.
On double le B à partir du deuxième.
À partir du deuxième. Et sur le site, donc, vous avez toutes les infos sur mes consultations et sur cette plateforme aussi de thérapie digitale et de formation.
Ça fait plaisir de retrouver le plaisir professeur partagé. Habibi dans AVS. Faudil Bellamy, vous, on vous retrouve tous les matins aux côtés de la célèbre Mona.
Exactement.
Et de Kim.
Voilà.
Je cite Mona avant parce que sinon, ça va pas le faire. Merci d'avoir été avec nous et puis passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.